Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Une vie, de Guy de Maupassant. Une vie est le premier roman de Guy de Maupassant, paru d'abord en feuilleton en 1883, puis en livre la même année, sous le titre Une vie, l'humble vérité. Il décrit la vie d'une femme depuis l'heure où s'éveille son cœur jusqu'à sa mort. Jeanne, fille du baron Simon-Jacques le Pertuis des Vaux et de sa femme Adélaïde, est une aristocrate qui, à ses 17 ans, quitte le couvent. Elle s'en va donc de chez elle. Ses parents lui lèguent le château pour y vivre. Elle rencontre le vicomte Julien de Lamarre, quelques jours après sa sortie du couvent. Ils se marient et partent en voyage de noces en Corse. Très vite, à leur retour, Julien trompe Jeanne avec sa domestique Rosalie qui tombe enceinte, puis avec la voisine Gilberte de Fourville qui se disait amie de Jeanne. Jeanne accouche prématurément de son premier enfant, Paul, qui connaît des problèmes de santé. Son deuxième enfant, une petite fille, est mort-née le jour même où M. de Fourville tue sa femme, Gilberte, et Julien de Lamarre, après avoir découvert qu'il était l'amant de sa femme. Alors qu'elle est rongée par la tristesse et qu'elle tombe dans une dépression que la solitude n'adoucit pas, Jeanne retrouve Rosalie, son ancienne domestique. À cause des dépenses abusives de son fils qui ne cesse de s'endetter, Jeanne se trouve en difficulté financière. Elle vend alors le château, qui pourtant lui tient énormément à cœur, et emménage d'ailleurs avec Rosalie. Sans nouvelles de Paul, Jeanne sombre dans une tristesse qui la vieillit très rapidement. Un beau jour, Paul, se trouvant une fois de plus dans une situation financière délicate, va demander à Jeanne, sa mère, de s'occuper de son propre enfant, qu'il a eu avec une débauchée morte lors de l'accouchement. Grâce à l'arrivée de ce nourrisson et la promesse que son fils lui fait de la rejoindre très bientôt, Jeanne retrouve le goût de la vie. De son enfance dans la campagne normande, Maupassant puise la matière de nombreux contes, au total plus de 300. Il y reproduit les paysages, les mœurs paysannes, parfois cocasses, souvent cruelles, ainsi que le patois local. Guy de Maupassant est né le 5 août 1850 au château de Miroménil, près de Tourville-sur-Arc, en Normandie. Il est le fils aîné de Gustave de Maupassant, 1821-1899, dont la famille est de petite noblesse. Sa mère, Laure, avait exhorté son mari lors de leur mariage en 1846 à obtenir le droit d'utiliser la particule nobiliaire, ou la forme de Maupassant, en tant que nom de famille, pour reconnaître son ascension et son ascendance noble. Avec son frère Alfred, Jeanne est l'amie de Gustave Flaubert, le fils d'un chirurgien de Rouen. Séparée de son mari Volage en décembre 1860, Laure s'installe avec ses deux fils à Eutrétat. Elle survivra à ses deux fils, comme leur père. À 13 ans, Guy de Maupassant est pensionnaire de l'institution ecclésiastique d'Yvetot, selon le souhait de sa mère. De sa première éducation catholique, il conservera une hostilité marquée envers la religion, il finira par se faire envoyer en 1868, ayant écrit des vers licencieux. À cette époque, il côtoie Gustave Flaubert, dont il devient le disciple. Bachelier ès-lettres, en 1869 à Rouen, il part étudier le droit à Paris sur le conseil de sa mère et de Flaubert. Mais la guerre qui s'annonce va contrarier ses plans. Ayant à peine 20 ans, Guy de Maupassant s'engage comme aspirant pour la guerre franco-prussienne. Affecté d'abord dans les services d'intendance, puis dans l'artillerie, il participe à la retraite des armées normandes devant l'avancée allemande. Après la guerre, Il paie un remplaçant pour achever à sa place son service militaire et il quitte la Normandie pour s'installer durablement à Paris. S'étant lié avec Zola, il participe en 1880 au recueil collectif des écrivains naturalistes, avec sa première nouvelle, Boule de Suif, qui remporte d'emblée un grand succès et que Flaubert qualifie de chef-d'œuvre qui restera. Maupassant a décrit dans sa nouvelle « L'auberge du cygne » à Tote. Il y a également séjourné comme Flaubert, qui écrivit en partie « Madame Bovary ». La même année, la disparition subite de Flaubert, le 8 mai 1880, laisse le nouvel écrivain seul face à son destin. En 1884, il vit une liaison avec la comtesse Emanuela Potocka, une mondaine riche, belle et spirituelle, aux ascendances italiennes et polonaises. Maupassant a marqué la littérature française par ses 6 romans, dont Une vie en 1883, Belle amie en 1885, Pierre et Jean en 1887, et surtout par ses nouvelles, parfois intitulées contes, comme Boule de Suif en 1880, Les contes de la Bécasse en 1883 ou Le Horla en 1887. Ses œuvres retiennent l'attention par leur force réaliste, la présence importante du fantastique et par le pessimisme qui s'en dégage le plus souvent, mais aussi par la maîtrise stylistique. La carrière littéraire de Maupassant se limite à une décennie, de 1880 à 1890, avant qu'il ne sombre peu à peu dans la folie due à la syphilis et ne meure peu avant l'âge de 43 ans. Une vie charmante et libre commença pour Jeanne. Elle lisait, rêvait et vagabondait, toute seule aux environs. Elle errait à pas lents, le long des routes, l'esprit parti dans les rêves. Ou bien, elle descendait en gambadant les petites vallées tortueuses dont les deux croupes portaient, comme une chape d'or, une toison de fleurs d'ajon. Leur odeur forte et douce, exaspérée par la chaleur, la grisait à la façon d'un vin parfumé. Et, au bruit lointain des vagues roulant sur une plage, une houle berçait son esprit. Une mollesse parfois la faisait s'étendre sur l'herbe drue d'une pente, et parfois, lorsqu'elle apercevait, tout à coup, au détour du val, dans un entonnoir de gazon, un triangle de mer bleue étincelante au soleil avec une voile à l'horizon, il lui venait des joies désordonnées, comme à l'approche mystérieuse de bonheur planant sur elle. Un amour de la solitude l'envahissait, dans la douceur de ce frais pays et dans le calme des horizons arrondis. Et elle restait si longtemps assise sur le sommet des collines que des petits lapins sauvages passaient en bondissant à ses pieds. Elle se sentait souvent à courir sur la falaise, fouettée par l'air léger des côtes, toute vibrante d'une jouissance, exquise à se mouvoir sans fatigue comme les poissons dans l'eau ou les hirondelles dans l'air. Elle semait partout des souvenirs, comme on jette des graines en terre, de ces souvenirs dont les racines tiennent jusqu'à la mort. Il lui semblait qu'elle jetait un peu de son cœur à tous les plis de ses vallons. Elle se mit à prendre des bains avec passion. Elle nageait à perte de vue, étant forte et hardie et sans conscience du danger. Elle se sentait bien dans cette eau froide, limpide et bleue qui la portait en la balançant. Lorsqu'elle était loin du rivage, elle se mettait sur le dos, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux perdus dans l'azur profond du ciel que traversait vite un vol d'hirondelles ou la silhouette blanche d'un oiseau de mer. On n'entendait plus aucun bruit, que le murmure éloigné du flot contre le galet et une vague rumeur de la terre glissant encore sur les ondulations des vagues, mais confuse, presque insaisissable. Et puis Jeanne se redressait et, dans un affolement de joie, poussait des cris aigus en battant l'eau de ses deux mains. Quelquefois, quand elle s'aventurait trop loin, une barque venait la chercher. Elle rentrait au château, pâle de faim, mais légère, alerte, du sourire à la lèvre et du bonheur plein les yeux. Le baron, de son côté, méditait de grandes entreprises agricoles. Il voulait faire des essais, organiser le progrès, expérimenter les instruments nouveaux, acclimater des races étrangères. Il passait une partie de ses journées en conservation avec les paysans qui hochaient la tête, incrédules à ses tentatives. Souvent aussi, il allait en mer avec les matelots d'Yport. Quand il eut visité les grottes, les fontaines et les aiguilles des environs, il voulut pêcher comme un simple marin. Dans les jours de brise, lorsque la voile pleine de vent fait courir sur le dos des vagues, la coque joufflue débarque et que dans chaque bord traîne jusqu'au fond de la mer la grande ligne fuyante que poursuivent les hordes de maquereaux, il tenait dans sa main tremblante d'anxiété la petite corde qu'on sent vibrer sitôt qu'un poisson pris se débat. Il partait au clair de lune pour lever les filets posés la veille. Il aimait à entendre craquer le mât, à respirer les rafales sifflantes et fraîches de la nuit. Et, après avoir longtemps louvoyé pour retrouver les bouées en se guidant sur une crête de roche, le toit d'un clocher et le phare de Fécamp, il jouissait à demeurer immobile sous les premiers feux du soleil levant qui faisait reluire sur le pont du bateau le dos gluant des larges raies, un éventail et le ventre gras des turbots. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.